mardi à Jean Bernard, et que je réchauffe un petit peu. J'ai noté plein de choses et là je les ai relues. Du coup, il a changé un petit peu. Mais voilà, promis juré, écoutez, promis juré, j'ai une horloge devant moi. Et je ne fais pas comme la fois dernière, mais j'ai complètement oublié l'horloge. Je suis allé sur le site pour voir combien de temps j'avais prêché. J'ai prêché 1h, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, franchement, je suis parti, je dis bon, c'est compliqué de prêcher devant une petite télé, devant un petit ordinateur. Mmh. Enfin, j'ai l'horreur de ça, je suis super content de rentrer dans l'église et de prêcher. Parce qu'on est là et on est tout seul, là dans la chambre, j'étais dans ma chambre et puis je parlais. Et puis je me suis aperçu à la fin que j'avais parlé. Donc, j'ai mis un réveil, hein, mais je n'ai même pas regardé. Et là, de toute façon, ce qui va présider ce temps de parole, c'est le temps. Je vous promets, si je n'ai pas fini, ce n'est pas grave, je continuerai une autre fois. Mais et en plus, franchement, j'ai envie de prendre le temps. Voilà, de me laisser en parler avec Élie, de se laisser inspirer par l'esprit, de ne pas avoir son truc, là, il y a un peu de fond, son fonce. Voilà, il y a 5 pages en 35 minutes, ça va être chaud. Et accrochez-vous. Non, moi, j'ai envie de passer un bon moment à partager la parole vraiment tranquillement. Comme Jésus, je pense qu'il le faisait, il s'asseyait sur une pierre, là, et puis il parlait tranquillou à ses disciples. Et je ne pense pas que son débit devait être trop élevé, quoi. Il devait appuyer chaque parole. J'aimerais bien savoir prêcher comme lui. Il devait le faire parce que je suis sûr qu'il faisait très bien. Voilà. En tout cas, moi, je vais essayer de vraiment me détendre et de me laisser interpeller. On va prier avant. Hein. On va prier parce que quand il y a le message, il y a toujours les lecteurs qui a besoin de prière. Donc, vous priez pour moi. Et puis, il y a les récepteurs, c'est vous. Moi, je prie pour vous. C'est vraiment, si vous ne recevez pas le message ce matin, à quoi ça sert que je le prépare, à quoi ça sert que je sois là, il est pour vous, ce message. Moi, ça va, je l'ai déjà reçu. Il dit toujours, le prédicateur est très, très mal poli, il se jette le premier sur le plat. Il mange déjà la prédication avant tout le monde. C'est pas bien. Hein. Et puis, à vous, quoi. J'ai vraiment un cœur clair, que ça vous touche, que ça vous fasse grandir. Je prie, Seigneur, pour ça. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. C'est une merveille absolue, ta parole. C'est quelque chose de nul, qu'on l'ait encore, et qu'on la lise encore, et qu'on te connaisse par elle, Seigneur. Alors que ce matin, nous puissions te connaître, Seigneur. Je demande de m'aider, Saint-Esprit, de me guider, de dire les choses et d'appuyer sur les mots comme toi tu demandes d'appuyer pour que les choses arrivent dans le cœur de mes amis, de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, pour qu'ils puissent être dans la joie de te connaître toujours mieux, dans la liberté de vivre ta parole, de t'adorer comme on l'a chanté, de vivre à l'unisson avec toi, Seigneur. Bénis ce temps,
Amen.
Seigneur. Bénis-le. Voilà, donc que ce soit un moment de bénédiction totale selon ta volonté, pour que ta volonté se fasse dans notre Église, Seigneur. Amen. Voilà, alors il y a Élie qui m'a fait un petit brief mercredi sur la prédication. Il a dit bon, si tu prêches tout, je coupe le micro. Il n'a pas dit ça, mais il m'a quand même dit tu sais, attention, pas parler trop longtemps. Et puis il a dit ouais, il faut essayer de trouver des petites choses fortes qui interpellent les gens. Alors moi, je vais commencer par... Aujourd'hui, ça va être un jeu de questions-réponses, en fait. Et vous allez voir, on va suivre en filigrane une notion qui est super importante et qui, je pense, sépare en deux la communauté des chrétiens. Il y a ceux qui vivent cette notion et il y a ceux qui ne vivent pas cette notion. Je veux vraiment vous interpeller par ça, parce que les stats montrent que la majorité des chrétiens, et j'en parlerai un petit peu après, ne vivent pas cette notion, et c'est juste la catastrophe. C'est juste la catastrophe. Alors, je vous laisse sur le suspense. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Vous allez découvrir à peu près. Et d'abord, je vais vous commencer une question au choc un peu. C'est, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes sûr d'être chrétien? A priori, on ne peut pas le croire, parce qu'on est dans une église, hein, et puis ceux qui suivent voilà, en vidéo, etc., c'est qu'ils soient un minimum motivés par le message de Christ, et puis qu'ils font acte de discipline pour venir au culte, pour participer, pour assister au culte, et donc ils se pensent chrétiens. Mais je crois que dans les églises, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Alors peut-être qu'il faudrait définir ce que c'est que chrétien. Et maintenant, souvent, les chrétiens, je dirais, engagés, ils préfèrent même des fois ne plus se faire appeler chrétiens, tant ils sont attristés de voir l'attitude et la vie de foi qu'ont ceux qui se disent chrétiens et qui ne sont chrétiens que de nom et de loin. Et généralement, les gens, c'est assez tendance en ce moment, les gens se disent qu'ils veulent vraiment suivre Christ. J'ai dit oui, ok, chrétien, okay, c'est un terme vague, ça veut dire je suis disciple de Christ. Donc, je vais tout de suite scinder la réalité du peuple chrétien, de ceux qui disent chrétien, le terme global de chrétien, en deux réalités. Okay, il y a les chrétiens et il y a les disciples de Christ. Il y a les chrétiens, je dirais, de tradition, de croyance, juste croyance, comme ça les arrange. Et puis, il y a les disciples de Jésus engagés. Et c'est toute la différence. Et si on veut être chrétien, disciple, si on s'estime chrétien, si on s'estime disciple, c'est que nous aimons le Seigneur. Et alors, dans les chants de louange, des fois, on s'est entraîné à dire « Seigneur, je t'aime », dans des temps d'adoration, « Seigneur, je t'aime », est-ce qu'on mesure ce que ça veut dire quand on dit au Seigneur « je t'aime » ? Est-ce qu'on veut dire ce que ça veut dire ? C'est pas rien. C'est quand on aime. Enfin, la question que je poserais, c'est est-ce que plutôt, est-ce que vous êtes sûr d'aimer le Seigneur ? C'est est-ce que vous avez bien compris qui vous aimez ? Parce que, je ne sais pas, mais je peux prendre l'exemple. Si on dit à sa femme qu'on l'aime et qu'elle aime des fleurs jaunes, par exemple, vous n'allez pas lui offrir des fleurs rouges, vous êtes d'accord ? Si vous lui offrez jamais ce qu'elle aime, votre femme va douter de son amour. D'accord ? C'est légitime. Si vous l'offrez, si vous ne faites jamais de cadeau, si vous ne lui faites jamais plaisir, si vous ne lui faites jamais ce qu'elle vous a dit qu'elle aimait, elle va dire, oui, mais elle n'aime pas, quoi. Elle est incapable de me faire plaisir, de me respecter dans mes choix. Okay. Alors, quand on aime Jésus, ce n'est pas des fleurs qu'on lui amène, mais qu'est-ce qui fait plaisir à notre Dieu, à notre Seigneur ? Ce n'est pas des fleurs, je veux lire, c'est dans Jean 14, 15. Si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. Voilà. Et donc, celui qui mesure ce que c'est que dire d'aimer « je t'aime Seigneur », il doit savoir que quand il dit « je t'aime Seigneur », que s'il est honnête dans son cœur, eh bien, il va s'appliquer à suivre ses instructions. C'est pour ça que je dis toujours que l'amour et la sanctification vont ensemble. Souvent, il y a des prédications que j'ai entendues, il y en a qui considèrent, et moi je prêchais comme ça avant, je disais « ah, la foi chrétienne, c'est un catamaran. Il y a les deux flotteurs. Il y a le flotteur de la sainteté et le flotteur de l'amour. Et puis, il y a la voile qui est poussée par l'esprit. Voilà, d'accord ? C'était une belle image. Et puis, je disais, oui, mais attention, il faut équilibrer l'amour et la sainteté. Ce n'était pas une bonne image, parce que ce n'est pas un équilibre. C'est deux choses l'une dans l'autre. C'est deux choses qui ne vont pas. Une chose qui ne va pas sans l'autre. C'est la conclusion de l'amour. La sainteté, c'est la conclusion de l'amour. Si on ne s'applique pas à suivre les instructions de Jésus, automatiquement, il y a un problème. Il y a un problème dans votre amour. Soit vous n'avez pas compris qui vous aimez, soit vous n'avez pas compris ce que c'est qu'aimer Jésus. Si vous pensez qu'aimer Jésus, c'est ressentir sa présence et puis dans les chants de louange, etc., et de partir dans une exaltation, ce qui peut très bien, franchement, c'est des moments d'adoration, c'est des choses qui font bien notre cœur, vous êtes tous d'accord ? Mais Jésus, l'amour, ça, c'est une petite manifestation, et c'est sûrement pas la manifestation essentielle de l'amour de Jésus. Et on va reprendre en Jean 14, 21, Jésus insiste, c'est dans le même chapitre. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient les instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est très intéressant quand même. Hein. Je révélerai, on parle de la révélation. La révélation, moi je vous parlais il y a trois semaines quand j'ai prêché sur la croissance. C'est un aspect que j'ai pas développé, mais la croissance, elle est aussi en relation avec les révélations qu'on reçoit. Au fur et à mesure, on reçoit des révélations de l'amour de Dieu, de sa sainteté, de sa volonté pour l'Église. Tout ça, un vecteur de croissance très très important pour l'Église, c'est les révélations. Mais là, il dit, quand est-ce qu'on va recevoir les révélations dans le verset que je viens de dire, alors, je précise, je prêche, moi, quand je lis un verset, c'est parole vivante. Voilà. Avant, je prêchais sur ce mot et j'ai changé officiellement. Quand je dis rien sur les versets, c'est que c'est des versets de parole vivante. Quand je dis, quand c'est autre chose, je le dis. Voilà. Alors, vous pouvez voir que c'est sensiblement différent des fois de la seconde. Et moi, je peux, puisque j'ai dit que je n'allais pas courir et que vous allez prendre le temps de poser les choses et de parler, je vais faire tout de suite une première digression. La digression, c'est ma spécialité. Mais je reviendrai sur le sujet. Je vais faire un partage. Ce que je dis, c'est personnel. D'accord ? Je viens de redécouvrir vraiment la Bible à partir de paroles vivantes. Et ce que je dis, on pourra en discuter dans l'équipe. Je pense aujourd'hui que la seconde est inadaptée à notre langage aujourd'hui et qu'elle freine. C'est fort ce que je dis. Elle freine notre compréhension de la Bible. Je pense que surtout pour les nouveaux qui arrivent, parce que la seconde, on a l'habitude d'avoir beaucoup de prédications dessus, donc on a beaucoup de repères et on comprend ce qui est dit. Mais franchement, je suis en train de relire depuis quelques mois, je revisite la Bible avec paroles vivantes. Alors c'est le Nouveau Testament, il y a les psaumes aussi, et puis il y a aussi le livre de la sagesse, Job, les proverbes, etc. Hein, tout n'est pas traduit en paroles vivantes, mais je peux vous garantir que c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. C'est un langage, franchement, qu'on comprend différemment. Et bon, je ne vais pas développer parce que les principes de traduction sont excellents. Moi, je trouve. Et vraiment, je vous invite des fois si vous avez l'occasion, à acheter une petite Bible paroles vivantes et pour la revisiter parce que c'est génial. C'est vraiment bien. Hein. Et regardez ce qu'il dit. Hein. Donc, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour. Celui qui m'aime, d'accord, mon Père, celui qui aime, moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. C'est de toute façon que la révélation va en conséquence de notre amour et de notre relation d'amour avec Dieu. Je crois que c'est tout à fait logique. Le Seigneur ne va pas révéler des choses à des gens qui n'ont rien à faire. C'est toujours son intérêt. Il a compris, il voit bien le cœur. Il n'a pas dans des révélations. Vous comprenez, c'est tout à fait logique. Et nous-mêmes, êtres humains, on ne va pas dire quelque chose d'important. Si j'ai quelque chose d'important à dire à quelqu'un qui ne va pas nous écouter, on ne va pas lui dire. Il va de toute façon ne nous écouter pas. Voilà, Seigneur, il faut qu'on écoute. Et ceux qui cherchent des révélations, ceux qui veulent aller des fois plus loin, c'est lié avec l'amour. Et donc, c'est lié avec l'obéissance, la sanctification. Celui qui suit les instructions. Alors ça, c'est mon introduction. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Mais il est très lié avec le sujet d'aujourd'hui. Parce que, si vous êtes d'accord, j'espère que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, c'est biblique, d'accord ? Si on aime le Seigneur, on ne peut pas se vautrer dans le péché. On ne peut pas. Alors, ok, ça nous arrive des fois, malgré nous, mais d'ailleurs, on va le voir maintenant. Mais on ne peut pas vivre seulement dans le péché et se prétendre chrétien qui aime Dieu. Celui qui vit seulement dans le péché, celui qui médite, celui qui se vautre dans l'orgueil, de façon plus ou moins consciente, il voit qu'il fait mal, etc. Celui qui. Ben, je ne sais pas, il y a plein de gens qui ont conscience. « Oh oui, mais moi, j'ai un sale caractère, je dis ce que je pense, et tout ça, et puis je dis ce que je pense, et je me dis... » Et les gens, ils s'autorisent beaucoup de choses. Dans une société, on s'autorise beaucoup de choses qui vont à l'encontre des instructions du Seigneur. Mais tous ces gens-là, s'ils se disent chrétiens, ben, ce sont des menteurs. C'est grave. Et nous, si on ne s'inscrit pas dans, dans l'obéissance, Dieu nous dit par ces versets qu'il y a un gros problème. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, j'en arrive maintenant, vous êtes convaincus qu'il faut obéir, il faut avancer dans la sanctification, eh bien, nous, chrétiens, qui vivons dans cette conscience qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on est Dieu, et on veut vraiment le glorifier, et on veut vraiment ne pas pécher, on veut vraiment être à la hauteur de ce qu'il nous demande, eh bien, nous, chrétiens, il faut bien reconnaître qu'on vit une tragédie. La vie chrétienne, c'est une tragédie. C'est une tragédie qui se finit très bien, mais c'est une tragédie. Pourquoi? Parce que, comme dit l'apôtre Paul, celui qui dit, l'apôtre Jean, enfin, c'est quand il écrit dans une de ses lettres, celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Alors, je viens de vous dire que celui qui pêche est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, et nous péchons malgré tout. Ça, c'est expliqué dans, dans le fameux verset de Romains 7, 15. Hein, vous savez, la deuxième partie de, du chapitre 7 de Romains, c'est la partie du désespoir. Ce sont les versets du désespoir du chrétien. Je vous lis. Hein. Alors, en parole vivante. Vraiment, alors ça c'est un cri, il faut voir ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça aux Romains, il faut lire ça comme un cri de désespoir, d'accord? C'est notre cri de désespoir, on veut tellement aimer Seigneur et puis voilà, on se voit pendant le péché, on insulte quelqu'un, on s'énerve, on est agressé, on lui rend le double, et là on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je voulais tellement pas faire ça. Seigneur, je veux te donner, Seigneur, tu sais, je t'aime. Si on n'a pas de contrition quand on nous pêche, il y a un gros problème. Vous n'aimez pas le Seigneur. Je lis Romains 7, 15. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente. Et je ne reconnais pas mes propres actes. Hein. Ça, c'est le chrétien qui pleure avoir péché. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je voudrais tellement honorer le Seigneur. Je me suis vautré dans le péché. Je fais... Non, ce que ma volonté a décidé, j'ai décidé d'honorer le Seigneur. J'ai décidé en mon cœur, je me suis baptisé, je me suis engagé dans cette vie. Je veux honorer le Seigneur. C'est mon roi, c'est mon maître, c'est celui que j'aime. Je ne veux pas pécher. Et donc, je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et ce que mon sens moral réprouve. Ça, c'est la tragédie du chrétien. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Au fur et à mesure que vous allez progresser dans la vie chrétienne, vous crierez moins ce désespoir. Ce désespoir sera de moins en moins sur vos lèvres. Et on va de victoire en victoire. Bon, l'apôtre Paul dit que même à la fin, ça peut nous arriver encore péché, que lui-même disait qu'à la fin, il n'était pas arrivé. Il n'avait pas encore remporté la couronne de gloire. Il n'était pas, voilà, il n'était pas encore parfait. Il avait tellement progressé. Et cette petite chose dont vous avez parlé en introduction, que les chrétiens avaient, que les disciples de Christ avaient, ou que les chrétiens, n'avaient pas, c'est le remède, c'est un remède. Il y a plusieurs clés pour progresser. Je vais vous parler, ce matin, est-ce que ça vous intéresse, de progresser dans la sanctification. Est-ce que ça vous intéresse de progresser dans la qualité de votre vie de relation à Dieu pour être victorieux dans le péché. Je pense que si vous répondez non, vous pouvez sortir. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Et là, il y a quelque chose que j'ai découvert mais à la puissance 10 depuis peu de temps. Ma vie chrétienne, elle a changé. J'ai découvert quelque chose. C'est ce que je vais vous partager ce matin. Et vu l'heure qui est annoncée, sans doute une prochaine fois aussi, parce que je n'aurai pas fini. Comment faire pour être victorieux sur le péché? C'est ça, hein? C'est ça notre quête. Hein? On est d'accord, hein? Ça vous intéresse, ne plus pécher, on est bien d'accord. Ben alors, on va faire un petit tour sur les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Alors moi, je vous dis, hein, allez, personnellement, je crois que de tous les évangiles, c'est peut-être le chapitre que je préfère le plus. Dans 10 ans, il y aura autre chose peut-être. Et en ce moment, ça me parle énormément. C'est Jean 15. Jean 15, c'est comment vivre l'évangile grâce à Jésus. Comment triompher, comment être joyeux, parce qu'il y a une question de joie aussi, il y a beaucoup de choses pour Romains 15, on ne va pas tout développer. Mais c'est vraiment un chapitre extraordinaire. Et là, il y a un grand, grand, grand secret. C'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va lire à partir du verset 4 en parole vivante. Je suis désolé, je vais vous lire très lentement. Et si vous êtes attentif, je lirai jusqu'au verset 8 et je vais donner deux fois la petite notion secrète que je vais vous révéler. D'accord ? Je vous laisse en suspense. La voici, elle y est deux fois. Et on s'aperçoit qu'on la trouve vraiment dans tout le développement que je veux faire. Je veux faire autour de ça. Vous allez voir la profondeur, l'importance et la cohérence de cette notion. Donc, on part, Jean 15, verset 4, c'est « Demeurez en communion avec moi, je resterai, c'est Jésus qui parle, d'accord ?» C'est, allez, on va dresser des... Jean 14, 15, 16, 17. C'est la fin du ministère de Jésus. La tension en train de monter, elle est palpable. Jésus est de plus en plus rejeté. Jésus commence à dire à ses disciples, bientôt, ça va être difficile pour vous. Je vous préviens, surtout le chapitre avant, 14, et il y a vraiment une tension palpable. D'accord ? Et Jésus, il va livrer un grand secret, ce chapitre 15, il va donner vraiment des grands secrets, des choses très importantes. Hein. Il dit, demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cerf. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas uni à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cèpe de la vigne. Vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire de tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les serments coupés, ils dessèchent puis on les ramasse et on y met le feu et ils brûlent. Mais vous, si vous demeurez en communion avec moi et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, ça rejoint ce que je vous ai dit en introduction, si on produit du fruit en abondance, on devient vraiment ses disciples. C'est Jésus qui dit ça, d'accord ? Alors mon Père sera honoré. On parle de glorifier Dieu, mais glorifier le Dieu, Dieu s'est remporté, s'est porté du fruit. Et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Seigneur Jésus nous demande d'être témoins. Nous, on parle, on est souvent centré sur comment évangéliser, la mission et tout ça. Mais la mission, elle commence dans notre cœur, à recevoir Christ et à être uni à lui pour produire du fruit. C'est ce qu'il dit. Ma gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. On devient la lumière. On devient le sel, les gens qui nous voient. Si Christ vit en nous, eh bien, nous allons être transformés. On n'aura même pas besoin d'ouvrir la bouche. Les gens disent, qu'est-ce que tu as, toi ? Qu'est-ce que tu as quelque chose que n'ont pas les autres ? Quelle est ta tempérance ? Quelle est ta joie inaltérable ? Quel est ton amour ? Quelle est ta bonté ? Ça vient d'où, ça ? Et tout ça, ce sont des fruits d'esprit. Et comment tient-on ces fruits de l'esprit ? Alors, je crois que vous avez compris comment c'est cette notion. Et elle revient deux fois, mais alors elle revient déclinée, je ne sais pas combien de fois dans ces versets, mais le mot, c'est communion. Et je vais dire ce que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens qui passent du temps avec en communion avec le Seigneur, et les chrétiens qui ne passent pas du temps. Et je ne sais pas, je voudrais vous inviter. C'est à chacun, à vous, de vous examiner avec le Seigneur. Mais moi, j'ai lu les stats, j'ai lu dans un livre, là, les stats des pasteurs aux États-Unis, le temps qu'ils passent à prier avec le Seigneur. Parce que la communion, elle prend des formes différentes. D'accord ? La prière est une essentielle. Il y a l'écoute de la Bible. Plutôt que lire la Bible, moi, je préfère lire l'écoute de la Bible. ils repassaient du temps dans l'écoute, alors pour écouter Pauline. Il y a l'adoration, la louange, la méditation sur notre vie avec le Seigneur, l'accueillir dans notre cœur, etc. Et tout ça, c'est du temps de communion. Combien de temps par semaine vous passez réellement en communion? Et c'est là qu'il y a deux familles de chrétiens. Il y a la famille, alors on pourrait décliner en plusieurs groupes, je suis bien conscient, mais moi je vais vraiment marquer la chambre des autres. Et je veux vraiment vous interpeller par rapport au message aujourd'hui, par rapport à ceux qui veulent porter des fruits. Voilà. Il y a deux sortes de chrétiens, il y a ceux qui portent des fruits et ceux qui n'en portent pas. Et ceux qui en portent, c'est ceux qui passent du temps en communion. Je puis vous assurer que c'est la vérité. Moi, je me souviens, ça m'a interpellé il y a pas longtemps, hein, vous savez, dans une des émissions quand on est tous ensemble. Voilà. Et il y avait un moment, c'était une émission consacrée à l'Église persécutée, et il y avait un pasteur chinois qui était invité. Et les témoignages qu'on m'a donnés, c'était clair, mais remplis d'amour. Donc un petit peu. Il se levait à 4h du matin. Alors, je ne dis pas que vous pouvez faire ça, parce que chacun a son rythme, d'accord, il faut que ça soit progressif. Hein. Et puis, ne faites pas ça pour faire ça, faites ça pour rencontrer le Seigneur. Vous êtes vraiment dans l'esprit, dans la joie, dans l'envie de le faire. Moi, si j'ai l'esprit dans lequel je prie ce matin, ce n'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour vous donner envie de passer plus de temps avec le Seigneur. D'accord. Et voilà, donc il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui passent du temps avec le Seigneur et ceux qui n'en passent pas beaucoup. Ceux qui en passent beaucoup, à l'image de ce pasteur chinois qui se levait à 4h du matin, qui priait, à son fils il racontait, il prie, il lit la Bible. Et ce gars, il est rempli d'amour. Il y a aussi, par rapport à ce que j'ai entendu aussi à cette émission sur l'Église persécutée, un dicton que se disent les Chinois, qui sont persécutés, vous savez, ils ne vivent pas dans le confort, ils disent pas de prière, pas de puissance. Pas de prière, pas de puissance. La puissance, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. On reviendra dessus, sur cette notion après. Hein? L'esprit est une puissance. Il faut voir ça. Je me souviens, c'est Mamadou Karoumbéry qui avait prêché pendant une heure sur l'esprit. La conclusion, c'est l'esprit est une puissance. Vous pouvez regarder dans la Bible, c'est profond et dans les livres. C'est vraiment une puissance qui est à notre disposition essentielle. Sans ça, on ne peut rien faire. Jésus le dit dans ce qu'on a passé, ce qu'on vient de dire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et où est Jésus aujourd'hui? Où est Jésus? Il est présent par son esprit en nous. Et cette communion, Jésus est là. Hein, il n'est pas dans des rites extérieurs, hein, dans des choses qu'on doit faire, parce que c'est la religion qui nous dit, si tu veux être un bon chrétien, tu vas faire ça, 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 ça. Ça, ça mène à rien du tout. C'est parce qu'on a Jésus dans notre cœur, qu'on l'aime, et qu'il nous met dans notre cœur de faire ça, 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 que nous sommes heureux de les faire. Là, la charrue est dans le bon sens. Mais faire des choses pour rencontrer Jésus, là, c'est mettre la charrue dans les deux. Vous n'avez pas compris. Et où est-ce qu'on va grandir dans l'amour de Dieu? C'est dans la communion de Dieu. Et j'ai oublié de finir. Voyez, parce que les stats que j'avais lus donc, sur les pasteurs, américains, ils passaient quelques minutes par semaine dans la présence du Seigneur. Ils étaient surbookés sur leur église, comment faire ceci, les commissions, les machins. Et le moment où ils se mettaient à prier, c'était 5 minutes avant pour préparer la prédication. Ah, Seigneur, montre-moi vite, montre-moi le message que je dois faire. En fait, ils l'avaient déjà largement fait. Hein, parce que ils avaient lu, alors c'est bien, mais ils passaient pas du temps dans la présence du Seigneur. Lire la Bible, c'est bien, mais vous lire la Bible sans qu'il se passe jamais rien, sans jamais avoir révélation de toute votre vie. Hein. Parce que si vous ne lisez pas la Bible dans l'esprit de communion, dans l'esprit du Seigneur, voilà, quand on ouvre la Bible, c'est pour passer du temps avec le Seigneur. C'est pas pour accomplir un devoir, il ne se passe pas rien. Et on peut faire ce qu'on veut avec la Bible. On peut faire ce qu'on veut. Il y a des tas de gens, des intellectuels, des philosophes qui dissertent dans des bouquins, dans des encyclopédies complètes, mais il n'y a pas de fruit dans leur vie. Par contre, ils tournent la Bible dans un esprit de communion avec le Seigneur. Voilà. Parce que tu as envie de le rencontrer. Parce que tu sais que tu as besoin de lui, tu dépends de lui. Tu ne pourras rien faire sans lui. On ne peut rien faire. Nous n'avons aucune puissance. Sans lui, nous retournons à notre nature charnelle. Et on fait tout par nos propres forces. Et Jésus n'aime pas ça du tout. C'est dans le pharisaïsme. Vous savez que les pharisiens de Jésus, ce n'était pas copain, moi. D'accord ? Bien, aujourd'hui, c'est pareil. Les pharisiens qu'on veut devenir, ce n'est pas des amis du Seigneur. Ce n'est pas des amoureux du Seigneur. Je pense que c'est pas des gens qui vont à la rencontre du Seigneur. Ils ont leur certitude. Il dit, si tu veux être en règle avec le Seigneur, tu fais ça, 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 ça. Mais les gens qui ont leur certitude, ils ne vont pas écouter le Seigneur, le rencontrer et pour lui demander ce qu'ils ont besoin de savoir, d'avoir une révélation. Demeurez en communion avec moi. Voilà le message de ce matin. Demeurez. Ce n'est pas venez 5 minutes. Demeurez. C'est un terme qui se donne dans la distance, dans le temps. Quand on demeure avec quelqu'un, c'est qu'on reste avec lui. Et moi, je vais donner un témoignage personnel. Avant, il y a très peu de temps, avant que je vive, qu'on commence à me connaître, avant que je viens de vivre, je lisais beaucoup, 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 beaucoup. Je voulais connaître, je voulais savoir, je voulais comprendre. J'étais un assoiffé, quoi. J'avais toujours 3 livres en haut en même temps, quoi. Un difficile, un moyen, un facile. Quand j'étais traumatisé, je disais facile. Quand j'étais en forme, je disais difficile. Et je voulais comprendre tout. Mais je n'étais pas vraiment dans l'écoute. J'étais dans la sécurité totale. Je veux dire que je commençais à prêcher. Je dis, ouais, mais attendez, prêcher, ouais, mais la vue, mais c'est trop de responsabilité. Le message du Seigneur, la profondeur de sa parole, mais je ne suis pas à la hauteur, donc il faut que je comprenne, il faut que je lise, il faut que. Au lieu de tout simplement d'écouter le Seigneur, des petits messages tout simples que j'aurais pu donner qui percutent les cœurs avec ce que je savais à ce moment-là. Et plutôt que, avant de me prêcher le matin, je lisais 10 fois mes notes, m'imprégner tout ça. Mais il fallait que je lise 1 fois mes notes et puis que je me mette à chier, à la présence du Seigneur pour recevoir sa présence. C'est ce que j'ai fait ce matin. Hein. J'ai lu rapidement mes notes et puis je me suis mis dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que je veux témoigner en tant que témoignage vivant et réel. Vous ne pouvez pas savoir comme les fruits sont en train de mûrir en moi depuis que je passe beaucoup plus de temps. Voilà. J'ai divisé par 2 mon temps de lecture. Je lis quand même pas mal parce que j'aime bien ça. J'ai envie de connaître, ça m'intéresse. Et j'ai multiplié au moins par 10 mon temps de présence avec le Seigneur. C'est une discipline. Au début, c'est peut-être un peu contraignant. Et très rapidement, ça devient un besoin. Parce que quand vous rencontrez, quand vous partez à la rencontre du Seigneur, quand vous apprenez à vivre dans sa présence, ben vous êtes béni, tout simplement. Vous finissez par en éprouver le besoin. Et c'est vraiment des moments de bonheur. Voilà. Il y a des jours, je n'ai pas envie. Je dis, mais Thierry, voilà. Mais d'ici, du Seigneur, la discipline aussi. D'accord ? Et je sais maintenant, pour l'avoir vécu et avoir vu les fruits que ça produit dans notre vie, que je sais maintenant que c'est très important, que ça produit du fruit et que c'est ce que nous demande Jésus. Et vous savez quoi ? Je vais m'arrêter là aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien de prêcher, j'ai des choses très importantes à vous dire sur la communion, vous allez voir comme c'est profond. À vous dire après, mais après, si je parle là-dedans, d'abord, je me sens fatigué. Et je pensais comme ça, je perds sans arrêt la fil de mes pensées, mais ça suffit. Voilà, c'est, je pense que le message aujourd'hui, c'est passer du temps avec le Seigneur. Si vous ne le faites pas, vous aurez. Au mieux, une vie chrétienne stérile. Quand je dis au mieux, c'est pour vous donner un avertissement que vous donne Jésus. Parce qu'au pire, l'enfer, je suis désolé de vous le dire, mais regardez dans ce que je viens de dire. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sorments coupés, il dessèche, on les ramasse, et on y met le feu et il brûle. Alors moi, je ne veux pas semer la terreur, mais je vous dis juste ce que Jésus a dit. Le débat sur comment peut-on garder sa vie ou la perdre, voilà, garder la vie éternelle ou la perdre, il n'y a personne qui le sait. C'est par la foi, c'est par notre acte de foi en Jésus qu'on est sauvé. D'accord, okay. Alors, moi, j'aurais tendance à penser que non, il arrive dans le moment où on n'est pas uni à ce moment-là. Et la communion, c'est la vie de l'esprit. On parlera, hein, ça aboutit à la vie de l'esprit et aux fruits de l'esprit. Qui ne veut pas conduire les fruits de l'esprit dans sa vie? Qui ne veut pas être bon, qui ne veut pas être patient, tempérant, qui ne veut pas vivre ça? C'est les fruits de l'esprit, si on réfléchit, c'est la vie de bonheur sur terre. Hein, c'est les gens qui vivent la vie de l'esprit, c'est les gens qui sont heureux avec un grand H. D'accord ? Ceux qui manifestent la vie de l'esprit, ceux qui aiment, ceux qui sont pleins d'amour, sont des gens heureux. Et ça ne se fera pas si on n'est pas en communion avec le Seigneur. Et si vous passez beaucoup de temps avec la communion avec le Seigneur, vous verrez ces fruits. Voilà, ça, c'est ça. Je sais, moi-même, je suis un témoignage, j'ai passé très peu de temps avec le Seigneur. Jusqu'à 2 ans. C'est pour ça que l'important, c'est ça, je l'avais à cœur. Jusqu'à pendant 23, 24 ans de vie chrétienne, je passais assez peu de temps en communion avec le Seigneur. Et maintenant que je crée, c'est incroyable. Comme je ressens l'amour de Dieu. Pour ça, et plus on passe du temps, plus on ressent son amour, plus on a envie d'aller avec lui, passer du temps, déposer vos problèmes avec lui. Déposer vos problèmes. Voilà, c'est ce que je vais partager ce matin.